Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josephine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 4 février 2023. Bonsoir à vous tous, fidèles auditeurs de la radio Inzamba Gatika Kawe. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous du journal. En voici d'abord les principaux titres. La cessation des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'objet du 20e sommet des chefs d'État de l'EAC tenu ce samedi à Bujumbura sur initiative du président burundais Evariste Ndayishimiye en exercice de l'EAC. Le sommet a eu la participation des chefs d'État membres à l'exception de celui du Sud-Soudan. Le procès rendu par les cours et tribunaux mis en cause par les justiciables en province de Makamba. Le sujet a été débattu dans une rencontre de la population avec le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Certains magistrats de cette province sont accusés d'être corrompus. Et à la veille de la journée marquant la charte de l'unité nationale, le magazine En Synergie vous parlera de l'état des lieux au Burundi. À suivre dans son journal, vous aurez également la revue de la presse. Rebonsoir.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC s'est tenu ce samedi à Bujumbura. Il a été convoqué d'urgence par le président burundais en même temps que le président de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Selon des sources concordantes, le sommet s'est penché sur l'évaluation de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo afin de prendre des décisions conséquentes. Ce 20e sommet des chefs d'État de l'EAC a vu la participation de tous les chefs d'État excepté celui du Sud-Soudan qui s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration à l'EAC. Ce sommet se tient également dans un contexte de tensions politico-sécuritaires entre le Rwanda et la RDC et des combats acharnés sont signalés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les localités de l'Est de la RDC. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN va bientôt mettre en place des lois visant la distribution du carburant de qualité dans les stations d'essence. C'est le directeur de ce bureau, Severa Sindaikengera, qui l'a annoncé. Il précise que certaines stations utilisent encore des pompes archaïques dans la distribution du carburant. Il demande aux propriétaires de ces stations de tout faire pour se procurer des pompes modernes pour servir du carburant de qualité. La BBN menace de prendre des sanctions sévères contre les récalcitrants. Écoutez, Severin Sindaikengela, directeur du BBN, il a dit ce samedi à la radio Isanganiro.
Nous avons montré d'autres choses qui nous préoccupent et sur le management de la qualité. Et je ne dois pas oublier surtout l'intervention du directeur de la normalisation et métrologie qui a signalé la problématique sur le contrôle des pompes aux stations et aussi des balances au massif. Et là, nous avons signalé que nous sommes en train de préparer une ordonnance qui va nous aider à résoudre tous ces problèmes.
En page justice à présent, les habitants de la province Makamba déplorent les procès rendus par les cours et tribunaux de cette province suite à la corruption qui est devenue monnaie courante chez les magistrats. C'est une problématique soulevée lors d'une réunion tenue ce vendredi par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Le Premier ministre a promis de licencier ces magistrats accusés de corruption. Le point avec mon fils Niyongede.
Dans cette réunion du Premier ministre Gervais Ndirakobucha avec la population de la province Makamba ce vendredi, la quasi-totalité des problèmes exposés par cette dernière concerne l'accès à une justice équitable. Certaines jeunes femmes accusent les autorités judiciaires de cette province d'avoir prononcé le divorce avec leur mari sans qu'il n'y ait pas eu une audience confrontant les parties en conflit.
La cour militaire a récemment bien tranché le procès. Après avoir vu que la cour a tranché le procès en ma faveur, 2 semaines après, mon mari a saisi le tribunal de résidence de Makamba pour demander le divorce. Je devais comparaître le 20, malheureusement ça n'a pas été le cas. Ce jour, il a été entendu seul. Le greffier m'a fait le résumé de la copie de jugement en m'informant que le divorce a été prononcé par le tribunal de résidence de Makamba. Ma question est celle-ci. Est-ce que le divorce peut-il être prononcé alors qu'il n'y a pas eu audience de toutes les parties en conflit?
Ils expliquent que les justiciables de la province Makamba manquent une justice équitable suite à une corruption qui se fait parler d'elle dans les juridictions locales. Le premier ministre, Gervain Diakobucha, a déploré ce qui se passe dans les cours et tribunaux de la province Makamba. Il a même promis de remercier ces magistrats par des licenciements s'ils ne reviennent pas à la raison.
Le gouvernement va déployer tous les efforts possibles dans les instances judiciaires de Makamba pour que ce soit des cours de justice au vrai sens et non des fardeaux pour le peuple. Il y a plusieurs cas de procès de divorce dans les instances de juridiction, mais les couples, une fois après avoir comparu devant la justice, ils préfèrent arrêter le processus de divorce. J'espère bien que les témoignages entendus vont nous servir de leçon.
Signalons que ces problèmes de corruption ont été portés aux différents ministres en visite de la province Makamba, mais ceux qui sont dénoncés dans la corruption sont ceux qui sont nommés à la tête des cours et tribunaux de Makamba, comme le précisent les habitants de cette province.
Inzamba. C'est une psychose de peur qui règne au sein des réfugiés du camp de Lusenda en RDC. C'est suite à des tirs qui ont éclaté dans la nuit de ce vendredi. Les réfugiés précisent qu'il était aux environs d'une heure du matin quand ils ont entendu des coups de feu. Ces sources indiquent que les assaillants ont ensuite enlevé une femme qui fait du commerce dans le marché de ce camp. La police est arrivée plus tard et a tenté de poursuivre les ravisseurs sans parvenir à les arrêter ni à les identifier. Les mêmes sources indiquent qu'on reste toujours sans nouvelles de la femme enlevée. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, ce magazine se penchera sur la fête de l'unité nationale, célébrée le 5 février de chaque année. Au cœur de la société, vous est présenté par Biel Garungu.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le 5 février de chaque année, les Burundais célèbrent la fête de l'unité nationale qui prend origine dans la signature de la charte de l'unité nationale adoptée par la grande majorité des Burundais en 1991. 32 ans après son adoption, cette charte aurait-elle pu transcender les divisions entre les Burundais pour bâtir une société juste et prospère, des droits et des devoirs de chacun? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 4 février 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Par voie référendaire, les Burundais ont voté oui pour la charte de l'unité nationale en 1991. Cette charte a été initiée par l'ancien président Feu Pierre Buyoya après les événements de 1988 dans les communes de Nega et Marangara, respectivement dans les provinces de Kirundo et Ngozi, au nord du Burundi, qui, selon l'ONU, ont fait plus de 30 000 morts. Quel est donc le contenu de cette charte de l'unité nationale? Émile Nibasumba, de la radio publique africaine, nous en dit plus.
Nous proclamons notre foi dans la pérennité de l'unité nationale. C'est le premier titre de la charte de l'unité nationale promulguée par le président de la République le 9 février 1991 après son vote par les Burundais le 9 février de la même année. Selon ce premier titre, le peuple burundais accuse une homogénéité culturelle rarement égalée. Le Burundi a toujours été un patrimoine commun de tous les Burundis sans distinction d'ethnie ni de clan. Le recouvrement de l'indépendance nationale a été l'œuvre de tous les Burundis. L'unité nationale a toujours constitué pour le peuple burundais le recours salutaire contre tous les drames. Nous condamnons et rejetons à jamais les divisions de toute nature. C'est le titre 2. Les Burundais s'engagent à extirper de leur société toute tendance à la violence, l'extermination physique et la vengeance. Nous ne cautionnerons jamais les actes et comportements divisionnistes de quelque nature que ce soit. Nous condamnons toute tendance à la globalisation. Nous nous engageons à bannir de notre société toute idéologie divisionniste. Je viens de citer quelques traits du titre 2. Nous nous engageons à respecter rigoureusement l'éthique de l'unité nationale. C'est le titre 3 qui parle du respect de la vie humaine, de la réconciliation entre les Burundais, du combat contre l'injustice, de la sauvegarde et la consolidation de la paix et la sécurité, de la promotion de la justice et de privilégier l'intérêt général. Sur le titre 4, qui est le dernier de cette charte de l'unité nationale, les Burundais prennent la ferme résolution d'organiser la vie nationale dans la voie de l'unité. Dans ce chapitre, on parle de la gestion démocratique de l'État, du respect des droits de l'homme, du développement national et de la culture nationale.
Pour les politiques burundais de l'opposition, la question de l'unité des Burundais reste posée jusqu'aujourd'hui. Frédéric Bamvuginyuvila, président de la coalition Sefor Arusha, demande au gouvernement de mettre fin aux pratiques discriminatoires en cours fondées sur des critères tant politiques qu'ethniques.
Et l'ethnisme, il est là, on le vit au même moment qu'on en parle, mais de façon différente. Le 5 février, il y a toujours des autorités qui se rendent au mausolée pour dire voilà, nous sommes de l'unité. Mais en réalité, on voit que cette autorité qui est là, qui se clame de Hutu, menace le Hutu parce que c'est l'ensemble des Hutus presque sur les collines qui est très menacé dans sa pauvreté. Et on voit que l'éducation qui devrait permettre justement à ce qu'il y ait un avenir possible, cette unité possible au niveau des jeunes générations, on voit que ce n'est pas ça. Nous avons une éducation au rabais. Et on voit que de l'autre côté, des Batouti, à des occasions, ils sont très maltraités. Et nous avons ce qui s'est passé en 2015 et après. Donc ce qui montre que la question de l'unité, c'est une question qui reste posée. Et il faut maintenant quitter la politique des mots vers la politique des actions. C'est maintenant la deuxième question. J'avais proposé justement, compte tenu de la superficie, de la démographie de notre pays, et qu'il fallait absolument mettre les Burundais, les Bahoutais, les Batoutis, les Batois dans des villages multiethniques. Il faut absolument que les Bahoutais, les Batoutis soient mis ensemble pour qu'ils s'expérimentent au jour le jour. Et ils comprendront qu'il y a de vrais citoyens Bahoutis, de vrais citoyens Batoutis. Et c'est à partir de cela qu'il faut refonder le pays, refonder l'unité, refonder le développement, refonder l'avenir de notre pays. Mais ce sont les jeunes générations qui doivent le faire. Mais pour qu'ils puissent le faire, ils doivent apprendre leur histoire, vraie histoire, et non pas réellement enseigner par le pouvoir actuel, parce que le pouvoir actuel enseigne autrement cette histoire. Il faut que tout le monde soit ensemble d'abord, et pour qu'on redéfinisse notre histoire, et que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé, et justement pensent à organiser leur société, une société qui devrait être exempte justement des racines de division.
C'est cette lecture de Frédéric Bamvuginyuvila, président de la coalition Sefor Arusha, qui met un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre que la charte de l'unité nationale reste un engagement pour tous les Burundais. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gahungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Pierre Gahungu et on va boucler la boucle avec la revue de la presse qui vous est présentée par Eddie Claude et Nina Adroué.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue à cette revue de presse hebdomadaire que nous commençons par SOS Média. Par la politique, le journal évoque le cas de nouveaux administrateurs communaux en province romangais qui n'ont pas encore pris leurs fonctions, ce qui dérange le bon fonctionnement des services. Selon le journal, les habitants des communes romangais, Ouganama et Bouyengelo, sont privés depuis un mois de leurs droits aux services administratifs communaux. Les plus touchés sont notamment les demandeurs de la carte d'identité, des attestations de possession de parcelles, etc. Pour avoir des documents, selon toujours SOS Média, les habitants doivent aller les demander dans d'autres provinces ou dans d'autres communes qui ont des administrateurs. Ils demandent aux autorités ministérielles de les ressort d'investir les nouveaux administrateurs afin qu'ils obtiennent les services auxquels ils ont droit. Un fondement pour continuer avec cette revue de presse des ravins qui menacent la commune Bouhiga, préoccupation de l'autorité provinciale, écrit l'agence burundaise de presse ABP. La nouvelle autorité provinciale de Karusi, Devot Nizigimana, doit faire face à deux ravins qui menacent la commune Bouhiga. L'un se trouve sur la même colline Bouhiga, l'autre sur la colline Kigoma, en zone Ewinusa. Même si les travaux communautaires du samedi 28 janvier de cette année avaient mobilisé un grand nombre de gens qui étaient appelés à canaliser les eaux de pluie en traçant un grand canal et en creusant En Gratrou, de collecte d'eau, l'administrateur de la commune de Ouhiga, Terence Bachiwaseme, sollicite à la plateforme nationale de gestion des catastrophes une intervention afin de protéger les biens et les personnes menacées par les ravins. Nous poursuivons cette revue de presse avec Burundi Echo qui écrit sur le corridor central. Une somme de 72 000 dollars américains a été mobilisée pour faciliter les activités sur les lacs Tanganyika et Victoria. L'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central AFTTC, C et Marine Service Company Limited de Tanzanie ont signé un accord pour faciliter les activités de recherche et de marketing sur les lacs Tanganyika et Victoria. Maître Fleury Okanjou Okonge, secrétaire exécutif de la FTTCC, fait savoir que cet appui, qui s'étendra sur une période de 3 ans, concernera aussi le renforcement des capacités de leur département de communication afin d'acquérir les derniers équipements et de former leur personnel. Avec cet accord, le Burundi utilisera la voie Lacus et la voie ferroviaire en utilisant le linéaire Bujumbura port de Kigoma, port de Dar es Salaam pourra économiser 90 dollars américains par tonne de marchandises par rapport à celui qui utilisera la voie terrestre selon les statistiques de Global Port Services de 2017. Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Vous êtes avec Eddie Claude Nazwe. Au revoir et bon week-end sur la radio Inzamba. Agathe Kakao.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Eddie Claude Nadoué et c'est par cette revue de presse que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis ce journal. Vous étiez présenté par Joséphine Johnson-Dimana. Au revoir et à la prochaine.